bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Dans cette émission, je vous offre accompagné d'un invité le décryptage d'une thématique pour mieux comprendre et anticiper les bouleversements de notre industrie. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, je suis avec Viviane Lipskier. Viviane is back dans les bacs. Vous la connaissez, Viviane, c'est la fondatrice de Brand Alchimie. Elle est l'experte DNVB en France. Elle accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer. Et elle est l'auteur de DNVB, les surdoués du commerce digital. Salut Viviane, comment ça va ?
Salut Adrien, ça va très bien. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé depuis l'année dernière en fait.
Ouais, exactement.
C'était un peu, une volonté de ma part. C'est pas que tu ne m'aies pas sollicité, mais j'avais besoin, je pense, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment et d'observer les mutations de la société que je trouve très rapides, très nombreuses. Et de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est quelque chose dont on avait déjà un peu parlé d'ailleurs la dernière fois, à quel point on est en train de passer d'une ce qu'on appelle la société de loisirs. Je sais pas si tu te souviens je parle souvent du sociologue et économiste américain Veblen qui a théorisé la théorie de la société de loisirs dans laquelle en fait tout est basé sur l'accumulation de biens, la possession de richesses, avant de construire, pour construire son capital dit social. Ça, c'est quelque chose que je crois qu'on a balayé du revers de la main ces derniers mois. Je pense qu'il y a un vrai, vrai changement qu'on avait déjà observé, d'ailleurs, vers ce qu'on appelle la société dite aspirationnelle. C'est un terme que j'avais déjà utilisé ici. Qui a été inventé par une autre sociologue américaine qui s'appelle Elizabeth Curry Dalkett en 2017, où dans cette société aspirationnelle, le carburant n'est pas l'argent et l'accumulation de biens, mais plutôt la culture, l'art, le design, l'architecture, la food, la mode aussi, et puis surtout l'éducation. Et dans l'éducation, aujourd'hui, je rajoute les voyages, même si aujourd'hui, on ne peut plus voyager. Et aussi, donc avec la culture et l'éducation, la réalisation de soi, tout ce qui tourne autour de la transformation, du bien-être, un mode de vie plus écologique. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà observées depuis 2015, 2017, une lente mutation de la société qui commençait par ces élites dont on disait qu'elles avaient du temps et qu'elles avaient de la connaissance et du savoir, donc des gens... qui étaient issus d'universités, etc., et qui devenaient des leaders d'opinion et qui transformaient la vision du monde, justement en ayant des envies différentes. Et puis quelque chose s'est passé, en fait, c'est que finalement, tout le monde a eu du temps. On a tous eu beaucoup de temps, peut-être un petit peu trop, ou justement suffisamment pour se cultiver, pour comprendre, pour aller chercher. Et toutes les ressources sont disponibles aujourd'hui. Donc, il y a eu un niveau, cette tendance dite aspirationnelle, aujourd'hui, elle s'est répandue dans toutes les couches de la société. Qu'on ait justement eu accès à des formations universitaires ou pas, aujourd'hui, les gens ont eu du temps pour chercher et pour comprendre. Et du coup, se sont interrogés de manière très, très différente sur les marques. Et puis, c'est-à-dire que tout ce courant va aussi puiser dans la peur de manquer le truc du moment. Le fameux FOMO on a déjà parlé aussi et qui est à l'origine de tous ces drops dans séries limitées de streetwear, mais aussi d'informations. Il faut en être, il faut faire partie du truc. Et ça, c'est quelque chose que, quand on a du temps, en fait, on a plus de temps pour se renseigner et pour entendre et comprendre les signaux faibles avant tout le monde. Et c'est vraiment l'effet Clubhouse, tu vois, aujourd'hui, qui se répand à une traînée de poudre. Et on voit bien que le phénomène est mondial, que tout le monde veut en être, tout le monde veut apporter sa contribution, sa graine. Est-ce que tu es sur Clubhouse, toi ?
Écoute, t'es au moins la 18e personne qui me demande, est-ce que t'es sur Clubhouse ?
Voilà.
C'est assez... Et je ne le suis toujours pas. Non, j'y suis pas encore. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai pas trop creusé le sujet, mais tout le monde en parle autour de moi et il faut absolument que j'en sois. Mais j'ai pas le temps. Il y a ce côté instantanéité de Clubhouse qui me gêne un petit peu. Moi, j'aime bien être dans le temps long, hein, tu vois, avec le podcast. J'aime bien laisser ma trace sur le long terme. Et c'est le petit truc qui me gêne chez Clubhouse. Mais bon, il va falloir que j'y mette mon nez quand même à un moment donné parce que j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de quelque chose.
Je sais pas. Je me suis pas encore fait d'idée complète là-dessus. Aujourd'hui, je pense que c'est pas encore l'expérience n'est pas est toute nouvelle et toute récente et elle n'est pas exploitée encore comme elle le sera dans les temps à venir. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir justement ce phénomène où voilà, il faut que tout le monde y soit. Et puis parce qu'on a du temps et comme tu disais, ça laisse pas de traces. Hein. Donc là, c'est vraiment le robinet ouvert à toutes les paroles. Donc j'imagine qu'il y aura du très bon et du moins bon. Mais il y a donc cet effet dont on disait la peur de pas en être. Et puis il y a ces signaux faibles aussi, l'idée de, avant tout le monde, d'avoir compris ce que c'était que le minimalisme, le vintage, l'upcycling, enfin, etc. Et d'appartir à ces nouvelles communautés. Et ce changement, je trouve qu'il s'est accéléré assez brutalement. Enfin, brutalement, oui, là, en quelques mois, donc c'est brutal.
Bien sûr.
Assez globalement aussi. Et donc, forcément, ça change la manière dont on va envisager et dont on envisage le business dans très nombreuses industries. Par exemple, parce que là, il a fait hyper froid et je regardais, je lisais les commentaires sur la fourrure. Bon, il n'y a pas si longtemps, porter des fourrures, c'était un signe de richesse, c'était un signe extérieur d'appartenance à un monde, on va dire, élitiste.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est considéré vraiment comme un signe d'ignorance. D'ailleurs, même si le prix de la fourrure a baissé, enfin, les gens n'en portent plus parce que en porter, ça reviendrait à mettre sur son dos un panneau pour dire que, en fait, on n'a rien à faire de la crise climatique et qu'on n'a aucune responsabilité écologique. Je ne sais pas ce que tu penses de ça.
Ah bah clairement. Bon. Même, tu vois, je trouve que même porter une fourrure vintage, il faut être courageux parce que franchement, tu te fais insulter dans la rue. Hein. C'est assez violent.
C'est violent, ouais. Alors, un autre signe de changement qu'on a commencé à voir venir, mais là maintenant qui s'accélère, c'est pour les marques de luxe, par exemple, qu'elles organisent elles-mêmes tout ce qui est circuit de vente de seconde main ou même de location. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on reprend cette théorie de Veblen, où le signe extérieur de richesse et la rareté indique la rareté faisant le prix, indique l'appartenance à cette classe de loisirs. Hein, on avait bien une désirabilité qui est corrélée à la rareté. Hein, du coup, aujourd'hui, on est rentré dans un monde complètement nouveau, en fait, où, par exemple, on va privilégier, je ne sais pas, par exemple, un couteau japonais qui sera réalisé selon une technique ancestrale et qui sera le fruit d'un travail artisanal exceptionnel, qui sera beaucoup plus désirable qu'un sac Vuitton. Ou, encore plus, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans les yeux de certains, aller récupérer un panier Too Good To Go, pour réduire le gaspillage ou commander ses repas dans un restaurant qui limite ses déchets alimentaires, c'est un statement qui va être beaucoup plus valorisé qu'aller dîner dans un restaurant étoilé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, être un leader d'opinion, c'est plus lié au pouvoir de l'argent et que les activités qui coûtent rien, comme la méditation ou des choses aussi simples que baser son alimentation sur les plantes, sont des symboles modernes de statut social. Donc ça change vraiment le rôle et le sens des marques. Tu comprends que quand on suit ce raisonnement, tout le raisonnement traditionnel doit être repassé au tamis. Parce que en fait, les consommateurs donnent de la valeur et se distinguent des autres. Il faut vraiment le comprendre, ça. Comment ils font, comment ils transmettent leurs valeurs. Et c'est indispensable parce que les marques doivent accompagner le mouvement. Et aujourd'hui, le mouvement, il est donné vraiment par les consommateurs. Mmh. Donc, tout ce qui est histoire de désirabilité de marque, c'est lié à une histoire et, j'ai envie de dire, même au potentiel de pouvoir transformatif pour que chacun de nous, que chaque marque fasse des humains des gens meilleurs. C'est-à-dire que dans cette nouvelle économie, pour le dire autrement, les marques doivent vraiment s'interroger et changer pour s'assurer de créer des produits et des services qui portent à la fois des valeurs marchandes, donc économiques, et en même temps des valeurs, entre guillemets, morales. Donc morale ne veut pas dire moralisatrice, hein, mais des valeurs dans Bien le sûr. Sens moral du terme. Là où, du coup, tu vois, dans cette ancienne économie, où on avait toujours un discours de d'accumulation de miles quand c'est Air France, ou de likes quand c'est Facebook, on sent que ces symboles-là sont dépassés et nous relient à des mauvaises habitudes de consommation, de surconsommation. Ouais, exactement. Des marques et des individus. Tout un argumentaire, tu vois, que de vente et de persuasion qui est basé sur la promesse d'un statut. Être plus jeune, plus séduisant, plus intelligent, plus heureux, plus riche. Le mode opératoire, c'est une logique de statut qui est liée à la richesse et à la désirabilité d'un prix élevé. Et maintenant, voilà une nouvelle possibilité de changer, de retourner le discours des marques et de le lier, je pense, à la valeur et à l'intérêt qu'une marque va avoir à réussir en s'appuyant sur un certain nombre de valeurs, une certaine idée du bien commun, et à remplacer donc ces statuts, ces anciens symboles, par des nouveaux récits liés plus à une mise en avant de l'environnement, de la responsabilité sociale, de la promotion d'une culture nouvelle, ou en fait d'une mission, pour résumer, et on a déjà parlé de ce que c'est qu'une mission brand.
Très bien. Alors concrètement, comment on fait pour lancer une nouvelle marque aujourd'hui quand tu sais ça, surtout une marque qui pourra émerger, qui pourra sortir du bois. Moi, j'aime bien utiliser cette expression. Et quelle est la première question à se poser finalement, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, il y en a certains d'entre eux qui doivent en train de réfléchir à un projet, à monter une marque. Comment on fait? Quelles questions on se pose quand on s'attaque à ce chantier-là?
Ah bah, je te reconnais bien là, Adrien. Pratique. Question pratique tout de suite. Tu as bien raison. Ce n'est pas en fait la réflexion philosophique qu'il faut l'avoir dans un premier temps, mais il faut aller dans le concret. Et je pense que pour construire une marque qui gagne le cœur des gens aujourd'hui, il faut commencer par ses clients. Et c'est quelque chose que j'arrête pas de dire. Peut-être tu m'as déjà entendu le dire 1000 fois. Et surtout, quel est le problème que vous allez résoudre pour eux? Je pense que les marques que les gens aiment le mieux sont celles justement qui intègrent ce que ça appelle le purpose, la mission, avant même de lancer le business. C'est-à-dire qu'elles cherchent à créer une meilleure expérience. La meilleure expérience, ça commence avec le business model, et puis ça s'étend à comment elles communiquent et elles agissent. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'aujourd'hui, on parle de business model, mais pour moi, dans business model, je mets tous les aspects technologiques, tout ce qui est UX, tout ce qui est brand experience. Il n'y a plus pour moi de limite claire, de frontière entre ces différents éléments. Tout doit marcher ensemble et tout se met au service des gens que tu cherches à toucher. Alors, évidemment, pour répondre à ta question, je pense que la plus importante à se poser en premier, c'est pas qui sont tes compétiteurs ou comment va marcher ta solution, mais quel problème tu dois résoudre pour les gens. La plupart des gens que je vois chez Brand Alchimie, des porteurs de projets ou même des gens qui ont déjà avancé qui ont déjà lancé, n'arrivent pas à me répondre à cette question. En général, ça paraît dingue, mais ils me décrivent le business tel qu'ils l'imaginent et ils me parlent des bénéfices produits. Ils reviennent tout le temps aux produits. Par exemple, je parlais il n'y a pas longtemps à une jeune femme qui m'a dit qu'elle allait, elle devait commencer sa campagne de crowdfunding une semaine après notre entretien et qu'elle allait lancer une nouvelle marque de savon. Donc je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu vas résoudre chez les gens avec cette nouvelle marque de savon? Et elle m'a répondu, je veux offrir un savon de grande qualité au parfum naturel à prix abordable. Alors ça, on sent bien que c'est pas un problème, c'est une solution. Bien sûr, c'est vraiment naturel de sauter directement à la solution quand tu lances un business, mais je suis persuadée que pour construire un bon business que les gens vont aimer, il faut avoir la réflexion inverse et passer du temps à réfléchir à qui sont les gens que vous voulez toucher et comment vous allez vous y prendre pour améliorer leur vie. Et c'est une démarche qui est d'abord sociologique, c'est-à-dire d'abord un peu large, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur la manière dont les consommateurs, à quoi ils passent leur temps, vos clients, votre audience, comment ils dépensent leur argent et qu'est-ce qui relie l'un à l'autre. Et comment ce processus social crée des nouvelles formes de culture et de liens sociaux. Très profondément, interrogez-vous sur la société et comment elle change et ses mutations, ce que je disais en premier. Il faut détecter ces moods, ces nouveaux moods sociaux, culturels et économiques, et repérer dans votre domaine d'activité les inversions, les contradictions, les coïncidences et même les bizarreries de comportement et les différentes cultures des consommateurs. Après, il y a autre chose. Il faut adresser le collectif, à mon avis, plutôt que la dimension individuelle. Donc, va falloir regarder, plutôt observer les communautés que les individus. Bon, plus concrètement, je pense qu'il y a vraiment trois questions auxquelles il faut que tout entrepreneur soit capable de répondre avant de lancer son business. Et avant de parler de communauté ou de segment, ce qu'on appelle de customer insight, segment démographique, ça c'est un truc à l'ancienne, ça. On parle de segment démographique et d'habitude hypothétique, oui. Tu vois. Donc quand je commence, pareil, quand je demande à mes clients quand ils arrivent, donc pourquoi ils pensent que leur boîte doit exister et à qui ils s'adressent, la cible. En général, ils me répondent un truc du genre nos clientes, ce sont les avocates entre 25 et 35 ans qui vivent entre Paris et New York et qui gagnent dadada et qui. Ok, donc, ou les mères de famille actives, urbaines, au fort pouvoir d'achat. Ça, ce sont des hypothèses. Ça fonctionnait quand on n'avait pas de data. Il fallait bien créer des hypothèses pour commencer. Mais aujourd'hui, en fait, il faut commencer par faire ce qu'on appelle le customer discovery et par identifier des attitudes, des habitudes qui définissent un groupe de gens qui vont être importants pour votre marque. Il faut faire un tableau vivant et aller repérer les gens qui vont être les champions de la marque, les personnes qui seront les premières à l'adorer et qui en parleront autour d'elles. Ça, c'est la première chose à faire, faire un customer discovery. La deuxième chose à faire, donc, c'est se poser la question, une fois que vous avez compris qui était votre audience vraiment, c'est de savoir quel est le problème majeur pour eux, qu'est-ce qui leur manque dans leur vie, bien sûr, autour du sujet qui vous habite. Hein. Et qu'est-ce que tu sais d'eux ? Quel est le problème saillant que ton business peut résoudre ? La troisième chose, c'est comment tu vas résoudre ce problème spécifique ? Et quel est ton statement clair et unique ? Qu'est-ce que la marque porte comme valeur au cœur de son business ? Et ça va expliquer pourquoi la marque va compter pour les gens. Et cette idée, c'est vraiment l'ADN de la marque, ça va piloter toute ta stratégie et toutes tes actions. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer à la troisième étape avant d'avoir répondu aux deux premières questions. Parce que, en fait, bien souvent, j'ai envie de dire, peut-être c'est un peu rude, hein, mais ce que tu penses ou ce que tu imagines de ce qui est pertinent pour toi ou pour ta team, ça l'est pour personne d'autre. En fait, souvent, les gens sont persuadés de tenir une idée super brillante qui va donner envie aux gens à la minute où ils l'entendront. Mais finalement, je pourrais résumer tout ça en posant une seule question. Pourquoi les gens devraient en avoir quelque chose à faire ?
Bien sûr. La question, peut-être pour illustrer un petit peu les deux premières questions, là, la jeune fille au savon, quel problème majeur est-ce qu'elle répond ?
Et elle me disait que, selon elle, les gens ne trouvaient pas de savon de luxe, enfin de savon en tout cas qui contiendrait, dont le parfum serait entièrement naturel. Et pour elle, c'était ça le problème. Bon, on n'est pas allé plus loin à ce stade, puisqu'elle devait lancer une semaine après sa campagne de crowdfunding. Donc je ne sais pas comment elle a résolu. Moi, je lui ai dit, il faut absolument que tu partes. Elle est partie sans avoir aucune idée de sans premier cercle, enfin avec un premier cercle, sa famille et ses amis, mais sans avoir idée de qui était sa cible en réalité.
Mmh.
D'accord ? C'était une vue de l'esprit de se dire que... Alors
mais ça, c'est un peu normal quand même, non ? Enfin, c'est un peu normal. Tant que tu n'as pas confronté le produit, surtout au niveau du crowdfunding, arrête-moi si je dis une grosse bêtise, mais j'ai le sentiment souvent que c'est toujours très hypothétique sur tous les projets que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et en fait, les gens savent qui est son client une fois qu'ils ont confronté le produit et qu'ils ont rencontré leur premier client et qu'ils ont échangé avec leur premier client et qu'ils commencent à comprendre vraiment qu'est-ce qui les a attirés sur ce produit.
Ça a beaucoup plus d'intérêt de commencer par comprendre qui est son client avant de lancer quoi que ce soit et à se poser les questions. Il y a plusieurs questions en fait dans l'histoire du savon. Il y a la question de quelles sont les habitudes de vie. Est-ce que les gens ont envie de revenir à des savons compacts plutôt que des savons liquides? À quel moment ils se servent de savon parfumé? Est-ce que c'est parce qu'il y a dans des moments où ils n'ont pas envie de mettre de parfum parce que ça serait trop fort? Parce que pour des tas de raisons, pourquoi ils auront envie de parfum naturel? Est-ce qu'ils sont sensibles au naturel ou pas? Est-ce que quand ils mettent du savon naturel, ils vont mettre du parfum derrière ou pas? Tu vois, il y a plein de questions à se poser avant de savoir si même il y aurait un marché pour ça. Est-ce qu'il y a un besoin ou une envie? Qui sont les utilisateurs de savon parfumé aujourd'hui? Pour quelles raisons ils les utilisent? Il faut déjà comprendre ça.
Bien sûr.
Ah oui. Et alors, si tu l'as compris et que tu as parlé à un certain nombre de gens et que tu as identifié des gens pour qui il y a un réel besoin, je ne dis pas que le produit est inutile, loin de là, dans ces cas-là, ces gens-là, si tu veux, bah, tu auras déjà parlé à un certain nombre de gens qui ne sont pas tes proches et qui vont pouvoir, justement au moment du lancement de produit, en avoir envie et besoin puisque tu l'as déjà évoqué pour eux et que tu es certain. Tu as déjà identifié, si tu veux, un certain nombre de gens. Donc par proximité, tu vas pouvoir dupliquer, tu vas pouvoir aller chercher tous les gens qui leur ressemblent. Donc au lieu d'avoir juste un premier cercle, tu auras déjà un deuxième cercle, donc ta campagne a quand même plus de chances de réussir. Hein, tu auras déjà un fichier client, tu sauras bien où sûr. Les trouver normalement, tu sauras où ils achètent leurs produits, à quel moment, donc tu sauras où les trouver. Tu vois. Et donc tu pars déjà avec...
Ouais, pour illustrer peut-être un peu le propos aussi, je me rappelle quand on a lancé Réunis, le premier truc qu'on a fait, c'était, tu sais, on avait fait notre petite vidéo un peu manifeste et ça avait attiré quelques premiers clients qui avaient répondu à un premier questionnaire. Et avant même qu'on lance le produit, bien sûr, et on avait pu, on avait appelé tous les gens en fait qui avaient répondu au questionnaire. Et ça nous avait quand même permis de, alors même si t'es jamais certain à 200%, enfin ça te donne quand même des idées assez claires de qui est ton client, qu'est-ce qu'il achète, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il n'a pas encore sur le marché, quel est le produit qu'il est en recherche, etc., etc. Enfin, tu m'as compris. Et c'est vrai que c'était très helpful. Enfin, c'était vraiment nécessaire de le faire avant même de confronter le produit aux gens, quoi.
Oui, et peut-être ça peut t'éviter, ça peut te permettre de pivoter déjà plusieurs fois au stade de l'idée. Mais aussi, ce qui est important, c'est que donc non seulement tu vas repartir de là en ayant déjà parlé à des vrais gens et en ayant déjà une idée de qui ils sont, un profil et savoir où les trouver, mais aussi tu vas pouvoir commencer à construire tes services et ton expérience de marque avec eux, en te basant aussi sur ces insights, même si tu veux pas co-construire ta marque comme toi tu le fais, tu as quand même des insights qui sont très intéressants. Mais on va reprendre cette question après si tu veux. Et c'est vrai que en fait, on peut pas baser toute son histoire sur l'attrait pour la nouveauté. Et évidemment, il y a des gens qui sont très excités par tout ce qui est nouveau, et c'est typiquement les gens, tu as tout à fait raison, qu'on trouve sur les plateformes de crowdfunding. Il y a des gens qui sont tellement attirés par la nouveauté, et aussi, il faut quand même le dire, par le fait qu'il y ait des prix d'appel sur les plateformes de crowdfunding, c'est souvent, il y a des tarifs early bird. Donc il y a des gens qui en ont fait un mode de vie, en fait, qui cherchent leurs produits comme ça. Enfin, c'est quand même pas tout le monde. Et justement, ces gens précisément qui vont sur les campagnes de crowdfunding et les gens qui viennent les premiers tester les produits d'une marque, c'est ce qu'on appelle les innovateurs. J'en ai souvent parlé. Les innovateurs en termes de pourcentage de personnes dans la société, c'est pas beaucoup de monde. En général, c'est 2,5% d'un groupe de personnes. Donc, évidemment, ils sont extrêmement précieux parce qu'ils sont vraiment attentifs à tout ce qui est nouveau. Ils veulent du dernier cri, ils veulent les dernières features, etc. Ils veulent aussi le truc le plus éco-responsable, hein, suivant le profil qu'ils ont, le plus engagé, le plus social. Mmh. Et surtout parce qu'ils sont toujours les premiers à en parler à leur groupe d'amis, qui, eux, seront des early adopteurs. On confond souvent les deux. Les premiers à adopter une innovation, ce sont bien les innovateurs qui transmettent aux early adopteurs, qui vont transmettre à la masse. Ce que tu dois quand même avoir en tête, c'est que la plupart des gens, le mass market, sont réfractaires à la nouveauté et au changement. Et eux, la grande majorité des gens, agissent par mimétisme. Ils vont aller justement regarder, vérifier d'abord qu'il y a un certain nombre de gens qui sont, et c'est comme ça que se lancent les trends. Il y a les trendsetters, on en a déjà parlé, et puis il y a la masse qui s'intéresse ensuite à un phénomène une fois qu'il est déjà installé. À ce moment-là, les innovateurs, ils sont déjà passés à autre chose, à moins que tu aies su les retenir. Mais il faut savoir que pour la majorité des gens, le nouveau, c'est inconfortable. Et d'ailleurs, à ce propos de, est-ce que une objection, une des objections principales que j'entends à chaque fois sur mais si tu pars du client, mais lui il sait pas, et j'entends toujours la fameuse phrase d'Henry Ford, si on demandait aux gens ce qu'ils voulaient, ils demanderaient des chevaux plus rapides. Et puis il y a la version plus récente de Steve Jobs que tu connais aussi, j'imagine. T'as juste changé la phrase t'as changé chevaux par machine à écrire. Si on demandait aux gens ce qu'ils voulaient, ils demanderaient des machines à écrire plus rapides. Et à chaque fois, ces deux phrases, on dit, elles sont citées pour dire que c'est pas la peine de s'appuyer sur les études conso ou les insights, et que les consommateurs te donneront jamais de réponse. Alors, en fait, ça, c'est un truc, je pense, vraiment rétrograde, quoi, pour moi. C'est-à-dire de rejeter l'importance du consommateur. C'est pas parce que les gens savent pas ce qu'ils veulent, en fait. La raison, c'est pour laquelle ils demanderont un cheval plus rapide ou une machine à écrire plus rapide, c'est qu'ils ont mieux à faire que de rester assis là, imaginer des inventions et résoudre tes problèmes à toi, et attendre que toi t'arrives à résoudre leurs problèmes. En fait, ils n'ont pas encore pensé à toi, donc c'est à toi de travailler pour établir ce lien. Et moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par plonger dans les besoins de ses clients. Mais si on regarde, la plupart des business résolvent un problème fonctionnel. Si je prends par exemple n'importe quoi, des brosses à dents, besoin des gens, c'est de se brosser les dents. Sinon, il va avoir des problèmes dentaires. S'il y a des avions, c'est parce que les gens ont besoin de se déplacer loin en peu de temps. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on passe du besoin fonctionnel à quels sont les moteurs essentiels pour les gens et quelles sont les choses universelles auxquelles les gens tiennent. Et les marques, les love brands, c'est les marques les meilleures, les plus puissantes, elles, entre guillemets, exploitent ces besoins humains les plus profonds et elles passent au-delà du fonctionnel d'une manière ou d'une autre pour créer des marques dont les gens ont vraiment envie et tombent vraiment amoureux au-delà de la simple solution pratique. Et c'est ça qu'il faut identifier, en fait. Au-delà d'un besoin évident, oui, on a besoin d'un savon pour se laver et c'est mieux s'il sent bon. Comment tu vas répondre de manière beaucoup plus... Quand tu vas plonger là-dedans.
Ouais. Et comment est-ce que tu as une méthode à nous proposer pour trouver ça?
Il y a une méthode qui est assez connue et que moi j'appelle le why test. Est-ce que tu vois un peu le môme qui est toujours en train de tirer au bas du vêtement de ton parent en disant mais pourquoi, quelle que soit la réponse que tu lui donnes. Tu vois le genre?
Bien sûr.
Voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, si tu reprends cette histoire de voiture là, de Henry Ford, imaginons que la question soit pourquoi est-ce que les gens voudraient une voiture? Alors, la réponse la plus évidente, la plus fonctionnelle, ça serait de dire que c'est pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais insight, parce que ça ne sert à rien, en fait. Mais à la place, si tu veux regarder quel est le véritable problème auquel les gens font face dans leur vie quotidienne, ça pourrait donner un truc qui serait plus parce que je prends mon cheval, donc comment je prends mon cheval pour me déplacer. Mais les chevaux, c'est lent et ils se fatiguent. C'est un bon début. Et là, tu commences ton why test. Pourquoi est-ce que ça compte que les chevaux soient lents? Parce que du coup, me répondrait mon futur client, parce que ça me prend trop de temps d'aller dans les endroits où je veux aller et je peux pas aller loin, je peux pas voyager loin. Mais pourquoi c'est important? Parce que je passe plus de temps à voyager qu'à me faire plaisir, à m'amuser ou à accomplir des choses. Mais pourquoi c'est important? Troisième why, parce que je vais bientôt mourir et que j'ai tellement de choses à accomplir avant, je ne veux pas renoncer à ma vie et être à d'autres chevals, passer ma vie à d'autres chevals. Bon, j'ai raccourci un peu et je grossis le trait.
Ouais.
Et juste pour dire, assez de manière assez, c'est assez rigolo, mais en fait, tu sais, comme je viens de la télé et que les séries me passionnent, l'écriture de scénarios me passionne, il y a eu un bouquin qui a été écrit par Christopher Booker qui s'appelle Seven Basic Plots, en fait, sur l'écriture de fiction, où il dit qu'il y a 7 scénarios possibles pour écrire des histoires. N'importe quelle histoire que tu racontes est reliée à 7 trames possibles. Et qu'à la fin, en fait, chacune est motivée par le savoir, le fait qu'on soit tous, qu'on ait connaissance de notre propre mortalité, de notre propre finitude. Bon, c'est pour ça que j'ai terminé par dire que finalement, c'est parce qu'on va mourir à la fin. Bon, toutes les marques ne sont pas construites autour de la peur de mourir, heureusement. Mais ça serait un peu sinistre, surtout quand tu vends de la mode ou du maquillage, t'imagines. Mais bon. Mais bon.
Sois belle le plus longtemps possible avant de mourir.
C'est ça, parce que tu vas mourir. Mais bon, de toute façon, c'est toujours relié à une angoisse existentielle, hein, même le maquillage. Tu vois,
la beauté, ouais, bien sûr.
Exactement, hein, de toute façon. Ou paraître. Hein, et le paraître, c'est aussi une peur existentielle. Et en fait, il y a peut-être aussi, dans cette histoire de voiture, un besoin de liberté, de ne pas être freiné, d'avoir des contraintes de distance. Donc on comprend bien en fait que derrière ce besoin fonctionnel il y a un besoin émotionnel et que ça c'est important de le déterrer en fait, ça permettra de pas seulement vendre des savons mais de savoir pourquoi on le fait et ça ça va nous permettre aussi de prendre des décisions qui sont pertinentes pour les personnes qu'on essaye d'atteindre parce que ça va les toucher à cœur. Et c'est là que toutes ces études justement de conso sont importantes. Alors quand je dis études de conso, encore une fois, c'est pas des insights, c'est pas des insights de marché. Hein. Ça n'a aucun intérêt. C'est ce que tu glanes toi-même en parlant à tes clients. Et donc, bien sûr, tu l'as dit, tes consommateurs ils te disent pas mot pour mot, ils te dictent pas ce que ta marque devrait faire, mais en les écoutant, tu peux quand même déterminer contre quoi ils se battent. En fait, et du coup, quand tu fais ça, tu te rends compte que les besoins des clients et l'idée de la marque, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Le consommateur a besoin d'identifier le problème, l'idée de la marque, qui est intimement liée à l'idée commerciale et à la solution. Quand tu commences par un besoin trop petit ou trop fonctionnel, en fait, tu finis avec une marque qui sera terne ou pas inspirante ou difficile à défendre. C'est vraiment la base de ta stratégie de marque. C'est vraiment et donc trouver ces besoins universels, avec cette méthode du why, on dit souvent qu'il faut 7 pourquoi pour aller trouver l'idée fondamentale. Et parfois, parfois on est étonné parce que c'est vrai que ce besoin, c'est comme on le disait, la peur de l'échec ou un besoin d'expression personnelle ou un désir d'appartenance. Et c'est souvent un peu les mêmes thèmes, en fait, trouver cette idée, en fait, ça va te permettre d'ancrer ton idée sur un besoin familier. Tu as toujours ressenti ça, et voici la nouvelle solution. Problème familier, solution inattendue. Et du coup, tu vas créer une combinaison entre confort et surprise, tu vois. Donc, redonner du confort aux gens et pas les attaquer par l'innovation, la nouveauté, etc. C'est nouveau, donc il faut l'avoir. Comme on l'a dit, ça, c'est... c'est que pour une certaine partie de la population qui est vraiment très niche. Donc, au lieu d'être une invention risquée et effrayante qui demande aux gens de changer leur comportement alors qu'ils ne sont pas forcément prêts, on leur offre une réponse qu'ils attendent depuis longtemps, mais ils ne la connaissaient tout simplement pas.
Très bien. T'avais l'exemple, je crois, de Air Club, non ? Dont tu voulais parler pour illustrer tout ça.
Oui, c'est vrai. Il y a un exemple d'Air Club. Moi, je parle pas trop des marques que j'accompagne parce que évidemment, je respecte le travail qu'on fait ensemble et les clauses qui me lient à elles. Mais Air Club, c'est un bon exemple. C'est pas une marque avec laquelle j'ai travaillé. C'est une marque américaine pour les hommes qui perdent leurs cheveux. Et c'est vrai que il y a un sujet. Beaucoup d'hommes sont préoccupés par la perte de cheveux, parce que c'est embarrassant. Beaucoup d'hommes sont embarrassés à l'idée de devenir chauve. Et c'est une crainte, en fait, le Customer Discovery a révélé pour Air Club que la crainte se manifestait très tôt. Si tu veux, il y a beaucoup de marques qui attaquent le sujet de la calvitie, du crâne dégarni, etc. Et on s'aperçoit que si tu parles avec les hommes, c'est trop tard, en fait. Et la plupart des hommes se préoccupent déjà du devenir de leur crâne quand les cheveux commencent à s'affiner. Et ils disent qu'ils ne veulent pas attendre de devenir chauve pour agir, alors que les marques traditionnelles arrivent à ce moment-là. Ils disent que ce sera trop tard. Et le sentiment, en posant les questions du why, donc ça, c'est une marque qui a été accompagnée par le grand cabinet américain qui s'appelle Red Antler. Et j'ai lu le déroulé des Customer Discovery. Et donc, la plupart des hommes disaient que, en fait, ce qui ressortait, c'est qu'ils se sentaient très vulnérables. Donc, la vulnérabilité, c'est proche du sentiment de peur de mourir. Hein. Et c'est cette vulnérabilité, en fait, qui a été mise à jour, qui a servi de point d'appui pour parler aux hommes en les remettant dans l'action, en fait. Justement, parler à tous ces hommes qui n'attendent pas pour prendre les problèmes à bras le corps. C'est une manière d'être au monde, hein, de prendre les problèmes à bras le corps ou de subir. Et tout le discours de la marque tourne autour de ça. C'est-à-dire que finalement, traiter ses cheveux, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe au contraire que tu prends les sujets, la préoccupation et que tu fais que tu agis. Exactement. By the way, Air Club est moins cher que son concurrent IMS et tous les autres. C'est la solution la moins chère. C'est aussi la plus facile à expérimenter, à utiliser à la maison. L'expérience est incroyable, il y a une consultation médicale qui est incluse, etc. Mais ça, ce sont des bénéfices fonctionnels, pas émotionnels. Et bien sûr, ils font partie de la communication de la marque. Mais ce n'est pas là-dessus que la marque s'est appuyée pour raisonner et pour gagner du terrain. Donc, creuser dans...
Hyper intéressant.
Voilà, ce que les gens ressentent, c'est vraiment hyper important.
Ok. Question. Si j'imagine qu'il y en a plein qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, mais si je ne me suis pas posé ces questions avant de lancer mon projet, comment est-ce que je fais?
Alors... vaut mieux se poser les questions avant. Ouais, c'est la merde, mais on peut toujours rattraper, on peut toujours récupérer. Et ça, c'est simple. À n'importe quel moment de la vie de l'entreprise, tu peux te reconnecter avec tes clients et tu peux apprendre d'eux. Et toi, tu le vis au quotidien. Tu l'as fait depuis le début, mais tu le vis au quotidien. Tu ne cesses d'ailleurs d'interroger tes clients et d'apprendre d'eux et de construire tes propositions de valeur, comme je le disais, de services et d'expérience, grâce à eux. Donc évidemment, le chemin entrepreneurial, c'est pas linéaire. Et aussi, il faut quand même le dire, comme tu le disais tout à l'heure très justement, tu peux trouver ton why après plusieurs pivots. D'ailleurs, c'est la vocation de la start-up, en fait. On dit qu'on est une start-up, donc on n'a pas trouvé son business model.
Ouais, c'est test and learn, quoi.
Ouais, exactement.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous... Pardon.
Non, je disais juste que j'accompagne tous les jours des marques qui sont déconnectées, hein, que ce soit d'ailleurs des NVB ou autres, hein, qui quand même finissent par se déconnecter de leur base client avec qui on recommence le travail. C'est pas pour tout reprendre à zéro, c'est pas pour tout refaire et tout changer complètement l'idée de business. C'est pour se dire, ok, est-ce qu'on pour réaligner les planètes, voilà, je peux pas le dire mieux que ça.
Ouais. Tu peux nous donner d'autres exemples de white test pour qu'on comprenne bien?
Oui. Oui. Alors toujours une marque très connue comme ça je reste respecte l'anonymat. Ouais. Du travail. En parlant d'Airbnb, comme ça tout le monde connaît et je pense que c'est justement quand on parle d'une boîte qui a pivoté plusieurs fois pour gagner en succès et en croissance, Airbnb est un super exemple. Donc c'est une boîte qui a été fondée en 2007 par Brian Chesky et Joe Gebbia. Et à la base, tu te souviens, c'était il y avait un congrès à San Francisco, un congrès de design, et il n'y avait pas assez de place dans les hôtels, donc ils ont eu l'idée de louer des matelas gonflables dans leur chambre, et ils ont lancé airbedandbreakfast.com. Donc ça n'a pas spécialement bien marché. Ils n'arrivaient pas du tout à trouver des investisseurs pour cette idée. Puis ils étaient très endettés. Et en 2008, ils ont fait un vrai saut créatif. Ils ont vendu des boîtes de céréales en édition limitée avec la tête d'Obama dessus. Ça s'appelait Obama's Oz. Ils ont réussi à payer leurs dettes. Et puis, ils se sont fait remarquer. Et ils sont rentrés dans le fameux incubateur qui s'appelle Y Combinator à New York. Ils ont engagé un troisième associé, beaucoup plus tech, qui s'appelle Nathan Blazarsik. Et je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Oula, c'est compliqué. Bon, regardez.
OK.
Il y a des C, des Z, des Y, des K. Un peu comme Ipsky, comme.
Ouais, mais ça doit être Zik à la fin. Blécharzik, à mon avis. Blécharzik. C'est simple que ça, à mon avis. Ouais.
Et en fait, ils ont découvert que le premier frein, en fait, à leur business, c'était la présentation des appartements. Tu vois, les listings d'appartements, le déroulé, c'était pas cool. C'est là qu'ils ont pris l'initiative de prendre les photos eux-mêmes. Après, ils ont fait rentrer des photographes professionnels. Donc là, c'était mieux. Et puis, en 2010, ils ont fait leur fameux hack sur Craigslist. Je sais pas si j'ai besoin d'en reparler ou si tout le monde connaît ce truc.
Ouais, wow, je peux le répéter quand même. Ouais.
Ouais, ils ont plugué un bot, en fait, sur... Donc, Craigslist, c'est l'équivalent du Bon Coin. Ils ont mis un bot dessus qui envoyait... Quand tu faisais une recherche sur Craigslist d'appartements à louer, en fait, systématiquement, ils envoyaient les infos Airbnb à la place. Bon, ça, c'était assez drôle, mais c'est totalement illégal. Et maintenant, plus personne ne fait ça. C'est ce qu'on appelait le growth hacking, la croissance de pirate à l'époque. Bon, maintenant, on est un peu rentré dans les rangs, surtout que, bon, il y a quand même des lois maintenant pour protéger les données. Et puis bon, en 2012, ils ont rebrandé leur site avec leur app, la wishlist, qui permettait de regrouper les destinations qui font envie sous une thématique. Bref, il y a une tonne d'articles qui ont été écrits sur cet étonnant et improbable chemin de croissance d'Airbnb. Qu'est-ce qui, selon eux, selon les trois fondateurs, qu'est-ce qui fait leur succès? Ben, c'est qu'en fait, ils n'ont eu de cesse de parler à leur communauté. Ils ont organisé plus de 500 groupes de parole. Alors, je dis groupes de parole, on dirait un peu les alcooliques anonymes. En fait, c'était des réunions. Je me souviens à Lyon, d'être allé à un groupe Airbnb, en fait. Donc, c'était les premiers, les gens qui me donnaient à louer, qui se réunissaient, en fait, avec des gens d'Airbnb, et puis qui expliquaient leurs difficultés, en quoi c'était bien, en quoi c'était pas bien, etc., les problèmes de conciergerie ou autres. Mais ils en ont fait plus de 500 dans le monde. Conduit par leur team. Et donc, en fait, ces groupes de parole, c'était vraiment des teams où on sentait un très fort lien, un sens d'appartenance. Vraiment, très vite, il a apparu que le problème qu'ils étaient en train de résoudre, c'était pas de proposer des chambres moins chères quand tous les hôtels étaient pleins. Et donc, si on reprend le why qui est ta question, quel est le why que Airbnb résout? Pourquoi les hôtels sont trop chers? Non seulement ils sont trop chers, mais en plus ils sont impersonnels. En quoi c'est important? Parce que les gens ne veulent pas se sentir comme des touristes quand ils visitent un nouveau lieu. Ils veulent être considérés comme des locaux. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils veulent avoir une expérience authentique, pas de pré-mâché. Ils veulent sentir qu'ils font réellement l'expérience d'un lieu de l'intérieur, pas comme des étrangers. On veut comprendre la culture locale, on veut comprendre le point de vue des gens qui vivent à cet endroit et vivre la même vie. Pourquoi c'est important? Parce que ça rend les voyages plus denses, plus riches. Mais pourquoi c'est important? Parce que les moments dont on se rappelle, c'est pas les moments insignifiants quand on est en train de bosser devant son ordinateur ou de faire la vaisselle. C'est ceux qui nous donnent l'impression de vivre quelque chose, d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, faire partie de quelque chose de plus grand. Je pense tous à nos souvenirs de voyage, là, normalement. Mais pourquoi c'est important? Parce que le jour de notre mort, on voudra penser qu'on a une vie bien remplie et qu'on n'a pas de regrets. Bon, je reprends mon scénario.
Encore la mort.
Oui, mais c'est vrai, quand tu penses à ça, tu vois, tu te dis, ok.
Bien sûr.
Comment je voudrais que ma vie, quand je regarderai en arrière, à quoi je voudrais que ma vie ressemble? Bon, là, on parle que du voyage, hein, évidemment, j'imagine qu'on aura bien d'autres choses à mettre dedans. Donc, le problème qui est résolu dans le business. Le problème, il est résolu dans le business model d'Airbnb, parce qu'en engageant continuellement ses communautés, elle peut tout le temps améliorer et proposer des nouveautés à partir des insights. Depuis le début, ils ont eu cette stratégie de rencontrer des utilisateurs et de grouper ces communautés dans la vraie vie. Alors, quand je dis communauté, évidemment, tu as compris, ce n'était pas le buzzword, hein, ce n'est pas le nombre de followers. Mais là, ce qu'on voit, c'est que Airbnb, finalement, c'est quoi? C'est un business qui résout le besoin de connexion humaine. Et c'est en creusant ce sujet qu'ils ont réussi cette croissance. D'ailleurs, en 2014, ils ont changé leur tagline, qui était Travel Like a Human pour Belongs Anywhere. Donc, on voit bien que finalement, c'était là, ce sentiment d'appartenance, d'être chez soi, de se sentir comme chez soi, n'importe où dans le monde. C'est ça la vraie histoire, en fait. Aider les gens à se sentir comme chez eux n'importe où. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'en 2016, ils ont finalement lancé Expérience. On peut réserver des expériences authentiques avec les locaux, des cours de cuisine chez l'habitant, des tours thématiques, etc. Mmh. etc. C'est pour amener cette idée d'appartenance au niveau encore supérieur.
Bien sûr. Mmh, mmh.
Voilà.
Après, aujourd'hui, le problème qu'ils ont un peu, c'est quand même que tous les appartements de Airbnb se sont un peu Ikeaisés et que cette expérience locale se perd un petit peu, finalement. Et ça, c'est quand même un vrai sujet qu'ils ont à tacler, j'ai l'impression, non ?
Ouais, t'as raison, c'est un vrai sujet parce que effectivement, il y a eu, ça a créé des business opportunistes et que l'autre sujet, c'est que effectivement, les grandes villes bannissent d'une manière ou d'une autre Airbnb aussi pour privilégier les hôtels et le retour à l'hôtel. Mmh. Néanmoins, dans leur réflexion et autour de la croissance. C'est comme ça qu'ils ont mené la réflexion et on peut se dire qu'ils vont s'en sortir parce que justement cette connaissance client les aidera à trouver des solutions. Alors que sinon, effectivement, tu te retrouves livré seul à toi-même.
Trop bien. Hyper intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Viviane. On se reparle bientôt. C'est quoi la thématique du prochain épisode ?
J'ai envie de te dire qu'on pourrait peut-être continuer, on verra les retours, mais on pourrait peut-être continuer justement parce que là, on a parlé de balance entre fonctionnel et émotionnel. Et c'est vrai que parmi les marques que j'accompagne, il y a souvent un sujet là-dessus dans la prise de parole. On parlera peut-être plus de communication justement,
création
ou de branding, de comment on balance entre le discours fonctionnel et le discours émotionnel, puisqu'il faut bien parler des deux. Il faut bien parler du produit et de l'avantage produit. Hein. Ça, c'est évident. Mais il ne faut pas en faire le centre du discours et ne parler que de ça. Donc là, je pense qu'on a peut-être un sujet dans lequel on aurait des choses.
Non, on a un gros sujet là. Et je pense que c'est vrai que je vois autour de moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens se posent ces questions-là. C'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas pousser que le produit en permanence et ne pas prendre ses clients pour des dollars sur pattes et leur.
Oui, c'est sûr.
Et
leur faire vivre... si tu raccroches à ce dont on discutait tout au départ. Qui est justement parce que les gens sont en recherche de plus de sens, de valeur, et finalement, quand on parle d'écologie, de fonctionnel. Donc, il y a une petite contradiction là-dedans. Et on disait, il faut justement aller saisir les contradictions des gens.
Excellent. Très bien. Et écoute, on se reparle très, très vite. Bonne continuation, Viviane. Merci pour tout. Et,
à très vite,
je t'embrasse. Salut. Ciao.
Bye bye.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.